Justement, les idées noires, il n'en est pas question avec Dominique des Cramés de la Bobine. Bonjour Dominique.
Bonjour William, bonjour JB, ami du bout des ondes, bonjour. Nous n'avons pas d'idées noires aujourd'hui.
Pas d'idées noires. Il fait très beau.
Il fait beau, on va dans une partie du monde, en Amérique du Sud, c'est plutôt des jolis paysages.
La patrie de Florent Pagny,
d'adoption,
tout là-bas.
D'adoption. Voilà. On va voir le film « Raora », un film du réalisateur argentin Lisandro Alonso. Ce film, en 2014 à Cannes, a été présenté et nommé dans la catégorie « Un certain regard ». Donc c'est un film qui a un peu...
C'est le cas de le dire.
Vous allez voir. Alors, ce film, Raora, tire son nom d'une légende dans la mythologie. Raora était une terre d'abondance et de bonheur que de nombreuses personnes ont tenté de trouver en vain. Alors, donc c'est presque un mythe.
Je dirais que c'est d'actualité. Hein. Il y a toujours des gens qui sont en quête de chercher quelque chose, heureusement d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, faut être curieux dans la vie un peu quand même. Alors, on peut dire que on est en Patagonie, mais on est en 1882. Donc c'est à l'époque, ça va être traité un peu comme un western.
Il y avait déjà des vaches.
Il y a des chevaux, il y a des vaches. On va partir durant la prétendue conquête du désert. Alors la Patagonie, c'est pas forcément que des herbages riches.
Il n'y a pas que des pâturages, oui.
Voilà, ça peut être des parties assez arides, même un peu dures, avec des rochers beaucoup. Donc c'est pas forcément hyper accessible.
C'est comme la conquête de l'Ouest, hein. Il y a eu des territoires entiers où il n'y avait rien du tout.
Hein. William, c'est exactement le parallèle de la conquête de l'Ouest.
Comme
c'est exactement ça.
Mais là, c'est la conquête du Sud. Hein.
C'est la conquête du désert.
Dans le sud de l'Argentine.
Voilà. On est tout en bas, là-bas. Alors, c'est dramatique parce que c'est une campagne génocidaire contre la population indigène de la région. L'armée va coloniser cette région et donc il y a des actes de sauvagerie, de barbarie de tous côtés. Et de tous côtés, ça veut dire que les indigènes, les Indiens se défendent avec leurs moyens et les militaires colons, ou on va dire que, eh bien, eux ont d'autres moyens plus forts.
Quand on dit militaires colons, c'est-à-dire, c'est les Espagnols déjà ?
Non, ce sont les Argentins. Ce sont les Argentins.
Parce que les Espagnols, c'est bien avant, hein, 1492.
Ils ont laissé la langue.
D'accord.
Alors, c'est dans ce contexte qu'arrive du Danemark, alors c'est un peu atypique ça, le capitaine Gunnar Dinesen, accompagné de sa fille de 15 ans, afin d'occuper un poste d'ingénieur dans l'armée argentine. Donc on fait venir quelqu'un, on lui donne un poste, il a une tenue militaire. Il a une tenue militaire. Et sa jeune fille, qui s'appelle Ingeborg, est la seule femme de la région, et on peut imaginer qu'elle met un peu les soldats en émoi. Tant et si bien qu'elle va tomber amoureuse de l'un d'eux, et la nuit venue, s'enfuit avec lui. Alors finalement, à son réveil, le capitaine Dinesen, son père, comprend immédiatement la situation, apprécie les risques encourus par sa fille et s'enfonce dans le territoire ennemi. Alors je vais vous laisser prendre
western contemporain.
C'est un peu un western. Alors on va se mettre dans la mesure de ce film en appréciant la bande-annonce.
I said it to you. Let's go, he's not here. Yo tengo un pequeño problema con mi gente y sus soldados. ¡Vamos!
Los rumores corren rápido en el desierto, ¿no?
Mija, es invisible.
Vad fan är du än?
Vad är det mija?
En la frontera con el desierto uno es un solitario. Es una vida extraña. La de construir un país, una familia.
Familjer forsvinder. Sie entfühlen. Ørkenen sluger dem.
Aura ce film, c'est la bande-annonce donc de ce film qui sera à l'Alticiné ce week-end. Particularité de ce film, alors déjà il y a une traduction en anglais, on parle un peu espagnol, ouais. Avec un accent bien sûr des plus argentins, alors, un accent un peu particulier en espagnol.
Et
puis on parle aussi danois.
Oui, on parle danois, parle danois. Et tout ça est traduit, sous-titré en français.
Ah, parce que je voyais la bande-annonce en anglais.
On avait une bande-annonce en anglais.
D'accord.
Rawa est l'histoire de la quête désespérée d'un homme pour retrouver sa fille, une quête solitaire qui nous conduit dans un lieu hors du temps, où le passé n'est plus et l'avenir n'a aucun sens. Alors, c'est un film énigmatique et fascinant, obscur et lumineux à la fois. Si on veut bien se laisser un peu du temps pour réfléchir, après avoir vu le film et en parler les jours suivants, il devient éclairant. Pourtant, ce film va partager notre public des cramés de la bune, des bobines, en deux camps bien distincts, ça c'est sûr. Il y a d'un côté ceux qui vont s'ennuyer, qui vont pas du tout apprécier, c'est clair, ils vont pas être patients.
J'aime bien votre manière de procéder, Dominique, vous préparez psychologiquement le spectateur, ouais. C'est bien.
Mais de l'autre, il y a ceux qui ne se sont pas laissés gagner par la beauté des images, des paysages. Les paysages, c'est la Patagonie quand même. Hein. Il y a des séquences en bord de mer, avec des piscines naturelles. Il y a
des grandes contrées comme ça à cheval.
Ouais. Et puis il y en a d'autres qui sont très, très sombres, avec des parties caillouteuses un peu pénibles. Alors, si vous vous laissez séduire par l'histoire que raconte ce film, une histoire simple en apparence, en surface, mais en fait d'une grande complexité si l'on cherche un peu à creuser l'intrigue. Dans Rora, plusieurs cultures sont à l'honneur. Il y a la culture argentine et danoise qui se confrontent, qui s'opposent un peu d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est au 19e siècle, on est, hein, bien sûr. Et je voudrais dire, il y a une autre particularité dans ce film. Je trouve qu'il y a un rapport quand même, c'est que ce film a été produit par la France, l'Argentine, le Danemark, le Mexique, les États-Unis, l'Allemagne et le Brésil.
Bon, bah alors, ça devrait faire.
Et là, il y en a des cultures qui se croisent.
Parce que là, c'est vrai que en vous écoutant, on est d'un côté sur le vieux continent et de l'autre, le continent bien sûr plus contemporain. Et il y a peut-être un choc de culture. Et il y a peut-être aussi ce qui demeurait en ces temps-là, c'est-à-dire un certain racisme où on n'essayait pas trop de considérer qu'il fallait être métissé ou.
Ah, mais de toute façon, c'est clair et net que les Indiens, ils vont être chassés d'une façon violente et ils se défendent. Hein. Mais c'est pas le sujet majeur. D'accord. Du film, parce que c'est des séquences qu'on voit très peu, la violence. C'est très long. C'est un film qui est tourné en format carré, avec des arrondis. Les angles de l'écran sont arrondis, c'est pas angle droit. Les séquences sont longues. Un parcours à cheval, on le voit de face, de dos, et la musique l'accompagne. Donc on est dans l'ambiance, dans l'immensité, avec la musique et les acteurs. Là,
mais c'est... d'ailleurs, pour rester dans le domaine du western, rappelez-vous que dans chaque western, il y avait toujours une musique hein, qui accompagnait différentes scènes, actes, images. Et là, on a en fond, je ne sais pas si c'est constamment, en tout cas durant la bande-annonce, hein, on a toujours cette guitare derrière. Là.
Alors, curieusement, c'est que la musique de ce film est notamment co-écrite par Viggo Mortensen, l'acteur.
L'acteur.
Et il est américain en plus. En plus, il est américain, mais effectivement, il a un prénom danois, donc il a dû.
Bon, allez, sortez de tous vos codes, vos stéréotypes, vous voyez qu'en fait, le monde, c'est ça.
Alors, le metteur en scène, c'est Lisandro Alonso, qui réalise donc là son troisième long métrage, Rahora. Il est né à Buenos Aires en 1975. Il a étudié le cinéma en Argentine. C'est vraiment quelqu'un qui est né pour le cinéma. Il a été, dès 1995, assistant réalisateur, donc il a eu beaucoup d'expérience. Il a fait 5 longs métrages. Et ce dernier, Rahora, était quand même celui qui avait été présenté à Cannes.
Moi qui suis un fort partisan du cinéma sud-américain, rappelez-vous, il y a quelques temps, on avait eu au téléphone une spécialiste du cinéma hispanophone.
Absolument.
Et espagnol aussi, basque même. Et bon, le cinéma argentin, en tout cas, c'est une valeur sûre sur ce continent qu'est l'Amérique latine.
Alors, c'est une valeur sûre. Et puis, on peut dire aussi qu'en France, on aime bien beaucoup le cinéma d'Amérique du Sud et sûrement le cinéma argentin. On aime beaucoup, on a souvent des films hein, quand même.
Oui, il y a trois pays majeurs hein, sur ce continent, même si bon, là, on est un peu plus dans les Caraïbes, c'est cubain, chilien et voilà. Argentin. Hein.
Et cette fois-ci, William, dans notre film argentin, il n'y a pas Ricardo Darín.
Bon,
il n'y a pas Ricardo Darín, puisqu'il y a Viggo Mortensen, qui est dans ce film, je le disais, donc il compose la musique, il est coproducteur, bien sûr, et c'est pas comme on pourrait le croire un Danois ou un Scandinave, il est américain, né en 1958 à New York. Alors, ça veut pas dire que son origine n'est quand même pas scandinave, hein, je pense que c'est le cas quand même. C'est un monsieur qui a un nombre de films considérables, c'est un grand acteur qui a beaucoup de présence à l'écran, qui est toujours très très excellent.
Bon, il a vécu un choc thermique, hein, parce que s'il vient de certaines côtes danoises pour arriver en Patagonie, quoi qu'en Patagonie, il ne fait pas toujours très très chaud, mais en tout cas...
Ouais, il y a du vent.
Il y a du vent.
Voilà. Et alors, je voulais simplement rappeler un ou deux films de Viggo, dans lesquels on voit Viggo Mortensen. C'est récemment, on a vu notamment nous, les Cramés de la Bobine, on a fait venir le film, ça s'appelle Loin des Hommes, ce film de Davin Oelefhoven avec Reda Kateb qui se passe au début des conflits algériens vers l'indépendance de l'Algérie. C'est l'instituteur qui est dans le désert, qui est loin dans l'arrière-pays.
Dans les Aurès.
Ouais, dans les Aurès, voilà. Et il joue ce rôle merveilleusement bien. Il a joué le rôle en 2011 dans un film de David Cronenberg, il joue Dangerous Method, et il joue qui? Il joue carrément Freud.
Oula.
Ouais, ouais. Et puis,
il a nécessité une psychanalyse après ou avant. Ben,
peut-être que les artistes sont souvent en psychanalyse d'ailleurs.
C'est vrai.
Et puis, en 2008, on le voit dans un western que personnellement j'avais adoré. C'est un western de Avec et Ed Harris. Ça s'appelle Apalooza.
Celui qui a les yeux bleus là.
Ah ouais, voilà. Pas beaucoup de cheveux.
C'est vrai.
Et puis, il a fait la série. Il a fait 3 Seigneurs des Anneaux. Enfin, aujourd'hui, il a 53 films. Il a été nommé. Il a jamais été primé. Viggo Mortensen.
Le pouli d'or du cinéma.
Ouais, enfin, oui. Et il y a une actrice qui s'appelle Gita Norby, qui joue la femme dans la grotte. Donc elle a joué, elle, plutôt dans des films de Lars von Trier.
Oula.
Elle a fait
pratiquement
4-5 films avec lui. Et elle a joué dans un film de Liv Ullmann aussi. Et puis il y a la jeune fille, celle qui joue la fille donc du capitaine, c'est une américaine qui a un nom encore tout à fait danois. Ouais, son prénom est assez compliqué à prononcer, c'est Vigbjørg Malling-Hager.
Je vois qu'il a révisé ses classiques en danois.
Réviser, ouais.
Il a un dictionnaire à côté de lui.
Les séances pour voir ce film Raura, eh bien c'est dès demain. Alors, demain dimanche, c'est à 17h40, la séance un petit peu plus tôt, 17h40. Lundi, 13h30. Mardi, 20h30, soirée débat animée par Laurence Guillon, qui va avoir un beau sujet à défendre. Raura, c'est un film qui va apporter beaucoup de...
Moi, je vois que vous lui mettez déjà la pression.
Non, mais on a beaucoup confiance en Laurence Guillon, pas de soucis. Et puis, William, je vous propose qu'on fasse une petite pause à l'entracte. Et je voudrais y ajouter un petit côté nostalgie. Et puis, c'est quand même c'est le roi du blues qui nous a quittés, qui aujourd'hui est inhumé à Memphis. Il avait 72 ans. Alors, on fait une pause musicale avec... le plus grand des bluesmen, je pense, c'est B.B. King.
Oh.
un de ceux qui restera très certainement au panthéon de la musique, ce fameux bluesman qui était B.B. King, qui nous a quitté la semaine dernière et qui a été enterré, vous le disiez aujourd'hui, du côté de Memphis. Tiens, ouais. Il sera peut-être enterré à côté de, tu sais, mais, du sas de d'Elvis.
Ah, peut-être. Enfin, c'est la région du blues. Oui. Enfin, c'est pas la seule région du blues, quand même. Hein. Quand même, à Chicago, ils sont bien aussi. Dans
attention.
Blues, hein. Ouais, quand même. Donc, cette semaine, Raura, donc ce film argentin de Lisandro Alonso. Et puis, la semaine prochaine, on propose, à partir de jeudi 28, là, un film français qui s'appelle Caprice, qui est un joli, joli film bien monté, avec un film réalisé par Emmanuel Mouret, avec Virginie Efira, Anaïs de Moustier, Laurence Tocker et également le metteur en scène Emmanuel Mouret. Je vous assure que c'est un film extrêmement plaisant, joyeux. Il n'y a pas la même réflexion que dans Raura, bien sûr. C'est beaucoup plus simple, l'intrigue, mais elle est quand même assez forte. Et si vous avez le cœur qui bat, il risque de battre beaucoup pendant ce film-là.
D'ailleurs, j'avais beaucoup d'a priori sur Virginia.
Anaïs de Moustier ?
Non, Efira.
Ah oui.
Qui est une présentatrice. Hein.
Ah ouais.
Et en fait, comme quoi, des fois, il ne faut pas rester bloqué sur certains aspects des gens.
Alors là, dans Caprice, elle a un rôle majeur. Elle le tient d'une façon merveilleuse. Elle a cette femme, un regard et un sourire. C'est quelque chose. Hein.
Mais oui.
Voilà.
Alors, pendant qu'on vous tient, Dominique, puisqu'il y a quand même une actualité brûlante hein, du côté du cinéma, jeu très ouvert à la veille du palmarès de Cannes. Alors, qui la Palme d'Or, qui l'interprétation, Dominique, demain ?
La Palme d'Or, il reste encore un film à présenter aujourd'hui. Hein. Mais quand même.
Le film d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Macbeth.
Ouais, c'est
avec
ça.
Avec notamment Marion Cotillard.
Ouais. Ouais. Alors moi, je j'écoute un peu les critiques à droite à gauche,
les côtes,
voilà, c'est ça. Et il semblerait que le film chinois Mountains May Depart, qui est de Jiai Zhangqi. Alors si vous voulez, je vous le fais en chinois, c'est Shang He Kugeng.
Très bien.
Et il a l'air de se détacher un peu des autres. Voilà pour le film. Il y en a un autre film qui apparemment est bien apprécié, c'est Sicario, réalisé par Denis Villeneuve. Voilà un peu mes deux.
D'accord.
Voilà un peu comment je vois les choses. Mais
alors depuis... moi j'aimerais beaucoup, c'est peut-être mon côté de fibre sociale, j'aimerais beaucoup que le film, notamment avec Vincent Landon, ce film sur. Cette loi du marché de Stéphane Brisé, qui est une œuvre cinglante sur la brutalité du monde du travail. J'aimerais bien que ce film, peut-être au moins, on pourrait espérer que Vincent Landon ait peut-être le prix de l'interprétation.
Oui, ça c'est une possibilité. Hein. Ça c'est une possibilité.
On parlait de Dipan aussi.
Oui. Mais oui, bien sûr. Hein. Mais je veux dire que il semblerait que les films choisis, les films français, il y avait 4 films français, je crois, cette année. Globalement, les films n'ont pas retenu beaucoup l'attention des spectateurs, des critiques. Par contre, ce qui est différent, c'est que Vincent Landon, au titre de l'acteur, là oui, c'est une valeur sûre. Il faisait du Vincent Landon plus fort que jamais. Voilà ce que j'ai entendu dans les critiques. On espère, hein, pour lui, on croise les doigts. Hein.
Et Ayus aussi de Sorrentino, ou Armi Madre même, de Nanni Moretti, pour être dans un cinéma qui est cher, le cinéma italien.
Oui, bien sûr, Nanni Moretti, c'est une bonne cote. Hein.
Bon, alors... Allez, il faut se mouiller, Dominique.
Moi, je reste mon chinois.
Bon, bah, moi, j'espère que le prix d'interprétation sera pour Vincent Landon, pour ce film.
Voilà, bon, on est d'accord tous les deux.
Ça marche. Eh bien, tiens, justement, Dominique, dans le cadre de notre quiz aujourd'hui, qu'on vous propose, on va rester dans le Festival de Cannes, puisque c'est un film qui a été présenté, eh bien, le 2 juin 59. Alors, on se posait la question en antenne, on était à quel
numéro
du Festival de Cannes. Allez, petit indice, donc 59... 2 juin, elle a été présentée au public de Cannes. Alors, je disais, c'est un film qui a reçu le prix de la mise en scène à sa sortie en juin 59. Il a été vu à l'époque par 450 000 personnes, avec un acteur qui a véritablement, à travers ce film, crevé les écrans et a eu ensuite une carrière relativement honorable.
Ça serait un film italien ?
Non, c'est un film français. On va encore rapprocher le propos, puisque c'est un film français, notamment de François Truffaut. Ça, c'est un des extraits du film.
Avec... Il y avait Jean-Pierre Léo, non ?
Voilà, et ? Et donc ?
Et les, l'actrice blonde, c'est ça, non ?
Oui.
C'est pas Brigitte Fossé ?
Non.
Non, parce que c'était bien avant ça, Brigitte Fossé.
Bon, en fait, c'est effectivement...
Non, je vais pas trouver le nom.
C'est le premier film de François Truffaut, ce qu'on appellera La Nouvelle Vague.
Oui, film de Nouvelle Vague, oui.
Et en fait, c'est le premier grand rôle de Jean-Pierre Léo. On est là dans le cadre des 400 coups.
Ouais, bien sûr, c'est les 400 coups.
Alors en fait, c'est quand on reprend le synopsis de ce film, en fait, il s'agit d'une autobiographie qui raconte l'enfance difficile d'Antoine Doinel, ses relations avec ses parents, ses petits larcins qui lui vont d'être enfermés dans un centre pour mineurs délinquants, puisqu'à l'époque, on rigolait pas. Hein. Et en fait, voilà, c'est un des premiers films qui a vraiment révélé Jean-Pierre Léo, qui ensuite eh bien, a poursuivi une carrière relativement intéressante. Il y a eu les 400 coups donc en 59, ensuite en 65, Masculin-Féminin, 68, Baiser volé, 73, La maman et la putain. Et en fait, en 73 aussi, toujours cette année, La Nuit américaine.
Ouais.
Alors Jean-Pierre Léo, il est né en 44, il est toujours vivant.
Ouais.
On le voit peut-être de moins en moins.
On le voit pas souvent quand même.
Il a toujours eu des rôles un peu sombres, un peu particuliers. Ouais. On va d'ailleurs réécouter la bande-annonce de ce film, qui est une des bandes-annonces, puisque là, on était dans le cadre de... je crois que c'est la bande-annonce l'école buissonnière. Comme quoi, ça tombe bien, puisqu'on
mais,
est en propos
mais Jean-Pierre Léo a quand même... tourné beaucoup avec François Truffaut quand même.
Oui, bien sûr. Ça a été effectivement son réalisateur fétiche, mais c'est grâce à Truffaut que Léo a eu cette carrière, qui était dans un rôle qui était un peu comme celui de Trintignant à une époque.
Oui.
Un peu obscur, un peu sombre.
Ouais, comme un peu en retenue, quoi.
Voilà. Alors pourquoi je vais vous faire repasser la bande son ? C'est que qui, d'après vous, a été le compositeur de cette musique ?
En 50, on est en combien là ?
59.
Ça peut pas être quand même Michel Legrand, c'est trop tôt.
Non.
Ça pourrait peut-être être Charles Aznavour.
Non, c'est quelqu'un qui a eu une carrière assez étonnante. C'était un grand farceur, un gars qui jouait beaucoup des mots. Il s'agit de Jean Constantin.
Ah ouais, Jean Constantin.
Qui était né le 9 février 23 et qui est mort à Paris le 30 janvier 1997. C'était un autodidacte et... Bon, un compositeur, il a souvent, on le voit à la télé, avec...
Il avait des grosses moustaches.
Des grosses moustaches,
voilà. Mais c'est vraiment très étonnant d'entendre et d'imaginer que cette musique est de Constantin, alors que le film est de François Truffaut, quoi.
Ah, étonnant, hein. Alors, ce qui est étonnant en plus, c'est qu'il a été notamment l'auteur, il a écrit beaucoup de choses, hein, Jean Constantin, mais il a été l'auteur des paroles de la chanson « Eh oui, mon manège à moi », interprétée par la fameuse...
C'était...
Édith Piaf.
Édith Piaf, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est un créateur, un compositeur très pointu. Hein.
Voilà. Bon, avec JB, on va se réunir. le jury va se réunir. On va accorder un 10 sur 20, Dominique, puisque.
Ouais, c'est ça.
Il a eu la moitié de la réponse.
La prochaine fois, j'appellerai un joker. Hein.
Bon, enfin,
d'ailleurs, j'aurais pu le faire cette semaine.
C'était les 400.
J'aurais pu le faire cette semaine, puisque les cramés de la bobine sont actuellement présents sur la Croisette. Il y a 4 de nos amis des cramés de la bobine qui sont accrédités à voir des films. Ils sont là pour une dizaine de jours. Je voudrais les nommer parce qu'il y a notre présidente, Danielle Saint-Turel, il y a Liane Bidot, il y a Françoise Fouillé et il y a Henri Fabre. Ils vont nous rapporter des histoires, beaucoup d'histoires, de vécu sur ce passage à la Croisette. Et puis je voudrais dire, William, juste une petite dernière chose. Dans l'émission La musique fait son cinéma, et bien cette semaine on avait choisi un thème qui était le Festival de Cannes, c'est pas très original. Et les grands films, on s'est aperçu qu'ils étaient toujours accompagnés d'une belle grande musique qui allait faire son chemin. Et mes chers auditeurs, si ça vous intéresse, demain matin, à partir de 8h30 sur C2L, vous avez La musique fait son cinéma, spécial Festival de Cannes, La musique.
Donc vous allez voir, cinéma. C'est un format totalement différent. Ils sont beaucoup plus sérieux, moins tendus, ou peut-être plus tendus d'ailleurs.
Ah ben là, le chroniqueur, il est tout seul en ce moment.
C'est vrai. Bon, en tout cas, merci Dominique. Ne vous faites pas 400 coups ce week-end. Hein.
Non, mais je vous souhaite à tous. Vive le cinéma.